France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Ce matin, j'accueille un chef d'orchestre également connu des auditeurs de France Musique pour ses chroniques volontiers humoristiques. Hervé Niquet, fondateur du concert spirituel et interprète éminent du répertoire baroque, est aussi un défenseur passionné de la musique française des 19e et 20e siècles. En témoignent ses enregistrements de Gounod, Félicien David, Gustave Charpentier et d'autres que nous évoquerons ensemble, sans oublier ses souvenirs de Gene Kelly ou de Zizi Jeanmaire. Hervé Niquet est mon invité dans quelques minutes, mais je vous propose d'abord de jazzer un peu en compagnie de Bix et de Bing.
What's the use of trying not to fall? I have no will.
Oh, you made your kill, 'cause you took advantage of me.
I'm just like an apple on a bough, and you're gonna shake me down somehow. So what's the use?
You cooked my goose, 'cause you took advantage of me.
I'm so hot and bothered that I don't know
my elbow from my ear.
Suffer something awful each time you go,
much worse when you're near.
Here I am with all my bridges burned, just a babe in arms where you're concerned. So lock the doors and call me,
'cause you took advantage of me.
Vous parlez tous de Sinatra, de Dean Martin, mais moi, mon crooner à moi, c'est Bing Crosby. Surtout lorsqu'il est ici en duo avec Bix Beiderbecke dans cet enregistrement d'une chanson de Rodgers and Hart en avril 1928.
Étonnez-moi Benoît Dutertre, France Musique.
Et je vous l'ai dit, mon invité, eh bien, il a suivi, comme un certain nombre d'autres, le chemin des baroqueux qui l'a conduit à la célébrité. Mais c'est en réalité un passionné de la musique sous toutes ses formes, passé par l'accompagnement au piano, à l'Opéra de Paris. Il a même été le boy de Zizi Jeanmaire. Et puis, il a aussi ce goût de l'opérette et de la fantaisie qui l'a conduit à convier dans ses productions d'opéra Shirley et Dino. Il a surtout cette passion de la musique française de toutes les époques, et notamment du 19e et du 20e siècle. Une passion peut-être un peu méconnu en regard de ses autres activités. C'est pourquoi je suis très heureux ce matin de recevoir Hervé Niquet.
Thank you.
La danse espagnole extraite du Tribut de Zamora, opéra de Charles Gounod, son dernier opéra. Bonjour Hervé Niquet.
Bonjour Monsieur Duterte.
Son dernier opéra que vous êtes le premier à enregistrer.
Bah oui.
Voilà. Vous vous expliquez pourquoi cette œuvre n'est pas du tout passée à la postérité, contrairement à, évidemment, Faust, Roméo et quelques autres.
Ben, comme vous dites, d'abord, Roméo c'est un titre. Oui. Faust, c'est connu. Le Tribut de Zamora.
Oui. Ah, vous avez raison, c'est peut-être...
Alors déjà, en plus, c'était une grosse chose. Voilà, puis c'était son dernier opéra. Peut-être il y croyait moins, il a moins fait de lobbying, j'en sais rien. Mais cette œuvre est vite passée aux catacombes et puis personne ne l'a lu. Par contre, il y a eu beaucoup de critiques. Et puis les musicologues, je ne donnerai pas des noms, ont dit « Oh mon Dieu, pièce mineure, c'est son dernier, ça n'a plus de sens, rien du tout. Pétard de nom de date, bon sang de bois. » Tous les chanteurs qui ont chanté dans la production avaient chanté Faust avant. Ils m'ont dit « Mais pourquoi on fait pas ça d'abord? C'est mille fois plus intéressant. » Intéressant que Faust, vous imaginez ?
Et comment est-ce qu'ils ont réagi, les musiciens de l'orchestre de la radio de Munich et du chœur de l'opéra de Munich, quand vous avez dirigé ça avec eux, comme on vient de l'entendre ?
Alors d'abord, c'est des Allemands. Alors, on rigole pas tous les jours avec eux, mais ça faisait la deuxième production que je faisais.
Et puis, les Bavarois, ils aiment bien rigoler, non ?
C'est pas tout à fait le genre. Et donc, je les ai poussés un petit peu, et puis on a fini par beaucoup rigoler. Je les ai vraiment, je leur ai dit qu'ils swingaient comme des boîtes de choucroute, qu'ils n'étaient pas une pointe sensuelle. Ça les a un peu émoustillés, sauf les contrebasses. Je me suis fait des potes avec les contrebassistes qui étaient tous dans des boîtes de jazz. Et on a fait, ils ont compris le machin, ils sont vautrés dans la musique. Le public du Prinz Regentdor Theater, c'est là où on enregistrait ça, c'est en direct. Oui. Debout à la fin de la. C'est vraiment une révélation pour eux, la sensualité française.
Oui, et j'ajoute, alors ça c'est très important parce que vous vous consacrez avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme à l'opéra français, à des quantités d'œuvres oubliées, méconnues qu'on va évoquer. Et dans ces œuvres, évidemment, il y a des airs, il y a des chœurs, il y a des ensembles. Et il y a des ballets comme ce pas espagnol qu'on vient d'entendre.
Évidemment.
Que le bon goût depuis quelques décennies considère toujours comme des choses finalement pas intéressantes, d'ailleurs qui sont souvent absente des enregistrements, et vous, vous êtes régalé avec tous ces airs de ballet.
Bah, c'est même pas de la régalade, c'est du militantisme.
Ah oui.
Parce que quand vous y réfléchissez vite fait, puisque j'ai cette tribune là avec vous,
oui,
on sacrifie toute la danse classique. Or, c'est un des corps de métier de l'Académie de musique, qui est notre opéra national. C'est quand même, je sais pas, il y a 200 danseurs tous les jours à l'opéra. Sociologiquement, ils sont importants à l'époque, pour la finance du ballet, de la vie de l'opéra, parce que les danseuses n'avaient pas beaucoup de salaire à l'époque, elles étaient entretenues par les abonnés.
Ouais.
Et jusque dans les années 50, il y a une vieille danseuse qui m'a raconté que quand elles sont venues demander une augmentation au directeur de l'opéra après-guerre, il leur a répondu « Mais mesdemoiselles, vous avez les abonnés !»
C'est drôle.
C'est pas, il y a 55 ans, 60 ans. Ouais. Et puis les génies, ben, ils sont géniaux aussi, ceux qui composent pour le ballet. C'est extraordinaire. Alors, je milite pour ça.
Ah oui, c'est un répertoire d'ailleurs de ballets d'opéra qu'on pourrait donner aussi au concert.
Ah bah bien sûr,
évidemment,
il y a de quoi.
Évidemment. En tout cas, bah voilà, merci d'être avec nous ce matin sur cette chaîne que vous connaissez bien. Vous
un
avez
petit peu
officié pour d'excellentes chroniques pendant un certain temps, jusqu'à ça s'est arrêté il y a 2 ans. Hein.
Oui, c'est
trop de travail.
Oui,
voilà.
Trop de travail. C'est quand même un métier la radio, Monsieur Duterte, je crois.
Oui, c'est alors, je lis sur, vous savez, la Bible maintenant, c'est Wikipédia. Hervé Niquet est un chef d'orchestre et claveciniste français spécialisé dans la musique baroque.
Ah bon?
Ça vous résume, ça?
Non, enfin, c'est réducteur, non. Dans la musique française, je veux bien. Je suis
ah, vous voulez bien la musique française? Oui, parce que vous croyez à la continuité de la musique française.
Ben, c'est qu'une seule et même chose.
Une seule et même histoire.
C'est le même bordel depuis la création du Royaume de France jusque maintenant.
Donc, depuis votre époque baroqueuse jusqu'à votre époque Gounod-esque.
Mais moi, je suis né à l'Opéra de Paris. J'avais 20 ans, je suis rentré à l'Opéra de Paris. Voilà, et puis j'ai trempé. Alors là, ce qui a été un choc pour moi, c'est surtout la rencontre avec tous les maîtres de ballet qui m'ont parlé de Millot, Bakst, Picasso, enfin tous les créateurs. Donc voilà.
Ben voilà, donc autant de sujets qu'on adore aborder dans cette émission. Et en commençant par une petite chanson comique, parce que vous êtes aussi un grand amoureux de l'humour, Hervé Niquet. Et on va écouter tout de suite le regretté Robert Lamoureux.
Je suis de nationalité française, et bien qu'étant né à Paris, maman est de souche bordelaise, papa est natif du Berry. Et vraiment de s'appeler l'amoureux, pour un garçon c'est merveilleux. Papa, maman, l'abonné moi, des gens comme nous il y en a des tas. On achète à tempérament, papa, moi, l'abonné maman. L'été on va au Sable d'Olonne, papa, maman, moi et la bonne. Quand on revient il nous reste 20 francs, papa. Là j'ai mis il nous reste 20 francs, mais faut pas charrier quand même. Il nous reste pas tout à fait 20 francs. Le père l'amoureux est fonctionnaire, maman et fille d'horticulteur. Moi j'ai le brevet élémentaire. Là j'ai mis brevet élémentaire parce que certificat d'études ça faisait trop long. On pouvait pas arriver à l'enfiler là-dedans. J'ai dit je vais pas me casser la lunette pour. Remarquez, je suis quand même sorti d'une grande école, hein. À coup de pompe, c'est entendu, mais enfin le. Un grand-oncle et pas de petite sœur, et vraiment de s'appeler l'amoureux, pour plaire aux dames, on fait pas mieux. Papa, maman, l'abonnez-moi. On a une radio qui marche pas. Ah, oui, mais on a un appareil photo qui marche drôlement bien, tiens. Un appareil photo entièrement aérodynamique. Au début, on pouvait pas trouver le devant, ça, le. Pendant 8 jours, papa, il photographiait ses boutons de gilet, comme ça, le. La seule fois qu'il l'a mis dans le bon sens, il y a un taureau qui arrivait derrière. Mais papa, il disait, bougez pas, il dit, je vais faire de la pause. Maman, il a dit, fais de l'instantané, faut qu'on s'en aille. Il dit, on va pas le. Machin. Le samedi, on va au cinéma, papa, maman, l'abonné, moi. Ou dans notre jardin de noisilles grand, parce que papa, faut tout le temps qu'il bricole. Tout le temps, je vois le dernier ramonage qu'on a fait chez nous, c'est papa qui l'a fait. Les ramoneurs sont pas venus. Les pompiers, si, pour dégager papa, mais sans ça, le. Ça va? Je vois, nous, on habite au 3e, l'autre fois, il y a un tableau qui s'est décroché, là, un tableau de mètre. Mètre 20, 25. Papa, on y a donné un clou, un marteau, ouf, un quart d'heure après, ça y était, on était descendu d'un étage. En ce moment, à la maison, il met de l'huile dans les serrures pour qu'elle marche. Puis quand il met de l'huile dans une serrure, c'est pas pour jouer, lui, hein. Une serrure, 2 litres d'huile. Hop. C'est comme il dit, là-dedans, il y a pas de jauge, hein.
Une jauge pour jauger.
N'a rien compris, cette pauvre femme. Enfin, ça ne. Remarquez que 2 litres d'huile dans une serrure, ça fait de trop. Ça fait 1 demi-litre dans la serrure, 1,5 litre par terre. Mais alors, le temps qu'on gagne avec ça, c'est formidable. Entre 2 portes, quand on glisse dans le bon sens, on fait 5 mètres d'un coup. Moi, j'ai vu papa traverser toute la salle à manger sur un pied avec des lentilles. Le plat de lentilles, il tenait à l'envers, mais enfin. Depuis qu'on a graissé la serrure qui donne sur le palier, c'est pas croyable. Avant, pour descendre, fallait 5 minutes. Maintenant, en 3 secondes, pff, hop, l'affaire est bâclée. L'autre jour, on était en train de déjeuner, il y a quelqu'un qui sonne. Alors, on a couru pour aller ouvrir, le temps qu'on ouvre la porte, pff, il était déjà parti. On a vu que 2 pieds, on n'a pas su qui c'était. On croit que c'est Durand à cause de l'odeur, mais sans ça, on. Un quart d'heure après, c'était sa belle-mère. Dit, vous avez pas vu mon. La concierge est montée, dit, envoyez pas vos saloperies dans mes escaliers. Dit. Bah, il y a 2 mois, on a eu des ennuis à la maison, là, avec la serrure de la porte des chutes, des capes, des chutes de. Oui, celle-là, justement. Papa, il dit, comment? Il dit, elle marche pas, cette porte-là. Il dit, on va s'enfermer tous les deux dans les chutes de côté. Et moi, je vais te faire voir comment. 3 jours, on est resté dedans. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour se distraire là-dedans? Y'a rien. On tirait bien la chaîne de temps en temps. On se lasse, c'est humain, ça. Vous me direz, il y a de la lecture, mais c'est toujours pareil. Il y en a, ils prennent des pages au hasard, après on peut plus suivre. Nous, on avait mis un roman avec une couverture en carton épaisse comme le pouce, la couverture, on sait même pas ce qu'elle est devenue. Il y en a, je vous jure, sont courageux, ça fait. Papa, maman, l'abonnez-moi. Quand on est gêné en fin de mois, on pense qu'il y a des millions de gens qui ont sûrement les mêmes embêtements. Là, j'ai mis embêtement, à la maison, on a un autre mot. Et cette façon de voir prouve qu'en somme, papa, maman, moi et la bonne, on est bien français 100%. Papa, moi, l'abonnez-maman.
Avec Jacques Breu au piano en 1950, c'était Robert Lamoureux. Vous l'avez découvert comment? Enfant,
Hervé Dicquet? Ah bah oui, évidemment.
Ah oui, à la maison, ah bah en
oui,
famille.
Oui, oui, oui.
À la radio, en ah disque.
Bah, évidemment. Ouais. Tout. Tout. Et non, pour moi, c'est un génie.
Vous avez ri pendant toute la chanson, je précise aux auditeurs.
Hein, je voilà. La connais par cœur, mais j'admire le montage, le pianiste qui est derrière. Vous entendez juste à la fin, il a perdu la note, évidemment, elle est donnée discrètement, pouf, c'est reparti. Donc c'est un continuo, c'est un accompagnement formidable. Et puis le type qui invente ça. Puis alors, il y a pas mal de chanteurs qui pourraient prendre des exemples pour la diction.
Ah hein. Bah pour la diction, oui, ça c'est toujours.
Alors là, Robert Lamoureux. Ouais. Non, puis l'histoire, et puis c'est formidable.
À propos de piano, votre premier piano, parlez-nous parlez-nous de votre premier piano, Hervé Niquet.
Oh, mon pauvre papa. Papa.
À Abbeville.
À Abbeville, dans la Somme.
Voilà. Dans les années 60.
Papa, comme dit Laboureux, il avait à peine son certificat d'études. Il gardait les vaches, donc il avait quelques idées d'ascension sociale pour moi. Puis un jour, il est rentré à la maison en disant à ma mère, Nicole, mets le petit au piano, à la musique, j'ai acheté un piano. Bon. Alors, elle m'a mis au piano chez une vieille fille qui était plutôt grenouille de bénitier que prof de piano. Et le piano est arrivé 15 jours après dans une bétaillère qu'on a descendue. Il avait acheté ça. Il avait trouvé ça parce qu'il vendait de l'alimentation pour le bétail. Dans une étable, le truc était mort, évidemment. Et puis voilà, mais entre-temps, le virus était attrapé, et puis j'ai pas arrêté, quoi.
Et vos premières partitions?
J'étais assez bon à l'école, là aussi il était fier, hein. Et du coup, quand j'avais des bonnes notes, eh ben, il m'achetait, allez viens, au bout de la rue, il y avait un brocanteur, et on achetait de la musique au kilo.
Au kilo.
Vous savez, les belles partitions reliées chez les bourgeois.
Oui,
là,
ça, ouais.
Ah ben, si j'avais un A, ou vraiment un A+, ou machin, ben alors c'était 10 kilos.
10
Donc,
kilos de musique.
Quand mes parents sont morts, ben, je veux dire, j'ai récupéré, mais il y a 150 kilos, 200 kilos de partitions relié comme ça. Et j'ai tout appris, comme ça.
C'est
ces kilos de musique.
Et vous avez accroché très vite à la musique, au piano, au clavier?
Un peu plus tôt, j'ai jamais décroché, oui.
Oui, c'était, tout de suite.
Je rentrais, il n'y avait rien à la maison. Il y avait un disque de Nana Mouskouri, une symphonie de Mozart, padadam, Valdo de los Rios, vous savez. C'est tout ce qu'on avait. Donc moi, je suis parti dans un imaginaire formidable, voilà.
Oui, mais ce qui est bien, parce que ça nourrit aujourd'hui votre éclectisme, votre curiosité, Alors donc, tout jeune homme, voilà, après cette première formation, vous montez à Paris, vous arrivez en 75, et en 75, quand on s'ennuie à Paris, on va voir au Châtelet des opérettes de Francis Lopez. À 18 ans, vous ne devez pas être très nombreux quand même.
C'était pire que ça. Moi, je suis venu à Paris, pas du tout pour la musique, mais pour la danse. Je voulais être danseur.
Oui.
Bon, Dieu soit loué, la danse y a gagné à ce que je m'arrête.
Oui.
Et donc, j'avais une copine qui était maître de ballet, et danseuse dans le corps de ballet du Châtelet, parce que quand Lopez avait le Châtelet, il y avait un corps de ballet, il y avait une ménagerie et tout le bordel.
Ah ouais.
Et donc voilà, moi j'étais traîné mes guêtres là-bas, c'était fantastique, quoi, vraiment fantastique.
Mais de par votre génération, vous auriez dû plutôt écouter les Rolling Stones à ce moment-là.
Écoutez, je pense que j'ai...
j'ai passé à côté.
Complètement.
Vous êtes allé directement à Francis Lopez.
Oh ben oui, c'était plus rigolo, avec les ânes Bourville, les éléphants et les routes fleuries. Oui, mais vous savez, ma grand-mère, elle était chanteuse dans les cafés à Dunkerque, donc les Rolling Stones et puis les Beatles, elle aussi passait à côté. Moi, j'ai baigné là-dedans, alors bon... Voilà.
Mais c'est très très bien, on en est enchanté. Et ça vous a même conduit, alors là c'est encore un peu votre période de danseur, hein, à travailler quand même. Vous avez été boy de Zizi Jeanmaire.
Ah oui, ça c'était quelque chose. Ben oui, il fallait bien gagner ma vie. Alors,
au Casino de Paris.
Ben oui. Ouais. Bon, j'étais remplaçant, j'ai passé les auditions.
Boy
quand
remplaçant,
même.
J'adore.
Oui. Alors, j'étais remplaçant, donc c'est une des grandes revues qu'elle a fait au Casino de Paris. Donc moi j'ai passé les auditions, j'ai été pris comme remplaçant. Parce qu'il en faut du monde là-dedans. Puis, on joue tous les soirs de la semaine, deux fois le dimanche, vous voyez. Donc j'ai tenu 3 mois quand même. Après, bon, j'étais voir ailleurs. Mais donc, j'ai donc quand même répété. Et puis, mon truc en plume avec les fameux éventails, je m'en suis tapé des trucs pendant 3 mois. Mais j'ai jamais dansé. Enfin, j'ai fait toutes les répétitions avec elle, mais jamais... Voilà. Eh ben oui.
Mon truc en plume, plume de oiseaux, de animaux. Mon truc en plus, c'est très malin, rien dans les mains, tout dans le coup de rein. Et c'est au clair de la lune que j'allume les pierrots. Oh, yeah. Mon truc.
marche.
La grande Zizi Jeanmer qu'on salue si jamais elle nous écoute, mon truc en plume. Faut quand même préciser, hein, l'orchestration est de Jean-Michel Defaille, Grand Prix de Rome ou quelque chose comme ça, grand musicien en tout cas, qui a aussi fait les arrangements de Léo Ferré. Les paroles sont de Bernard Dimet, ouais. Merveilleux poète. La musique de Jean Constantin, ouais. Un fantaisiste incomparable.
Oui, 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 oui.
C'est pas n'importe quoi ce genre de petite chanson.
Ah non,
hein.
Mais le niveau du musical à cette époque-là, ouais. Regardez... comment s'entourer Charles Trenet. Vous regardez tous les gens qui ont orchestré pour lui ou les orchestres.
Oui, Valberg.
Ahurissant, le niveau du musical, c'est ahurissant, vraiment.
Mais comment est-ce qu'on peut passer de Zizi Jeanmer à William Christie?
Moi, ça c'est pareil. C'est exactement la même chose parce que oui, alors oui, non mais franchement,
là, il y a une étape qui me manque.
Non, c'est la même chose. William a vraiment, j'allais dire, sauvé la musique baroque française parce que cet Américain, il est arrivé avec son goût d'Américain clinquant. Faut que ça soit neuf. Il aime pas la patine comme les Américains. Si ça brille pas, ils aiment pas. Hein. Or nous, un vieux meuble, une vieille partition, on trouve, on ne va pas y toucher à la patine. Lui, il est arrivé, il a tout décapé. Ben, c'est ce qu'a sauvé la musique baroque française.
Ah, oui, oui.
Ah, j'en suis persuadé. Et puis son idée, ben, là encore, une fois Zizi, on la comprend, même dans la rue, quand on a engueulé tout le monde, ouais. Ou le chauffeur de taxi, on l'entendait, la projection, et puis voilà.
Ben, enfin, je vais rien de vous diriger, a priori, vers la famille baroque qui était en train de se constituer à ce moment-là, autour de lui et de quelques autres.
C'est le
chant qui vous a conduit là.
Ben, c'est l'Opéra de Paris, parce que oui. Moi, je suis... c'est vrai. Moi, j'étais toujours pianiste à l'Opéra de Paris tout au début, là, et quand...
Voilà,
on
vous
avait...
étiez chef de chant. Hein.
J'étais chef de chant. C'est-à-dire
que vous accompagnez les chanteurs.
Les chanteurs, moi j'étais surtout au ballet, j'ai fait les chœurs, j'ai fait un peu de fosse aussi, de conduite de plateau, enfin bref. J'ai fait tous les métiers du pianiste dans une maison d'opéra et puis j'en étais à ma 7e année. Et puis un jour, on avait, il n'était pas construit évidemment, on avait Garnier et l'opéra comique. Ouais. Et donc l'opéra comique était surtout dévolu au groupe de recherche chorégraphique de l'Opéra de Paris, la recherche avec Jacques Garnier, etc., pour certains danseurs du ballet. Et donc moi, comme il y avait beaucoup d'improvisation, j'étais un peu chargé de ça. Et puis un jour, je vais accompagner la classe, une répétition, je ne me souviens plus. Et il y avait un petit panonceau, William Christie, Les Arts Florissants, recherche des chanteurs pour la prochaine production Attis de Lully.
Attis, carrément.
Et moi, j'allais au masterclass de Bill, enfin, au masterclass ou même au conservatoire, traîner mes guêtres au conservatoire. Et je me suis dit, oh, j'en ai marre, je vais passer l'audition pour rigoler. J'ai été pris. Donc voilà, et puis ça a commencé comme ça, et puis...
À quel moment vous avez vraiment constitué votre propre formation, alors?
Après Attis.
Juste après, voilà.
Parce que j'ai laissé tomber l'Opéra de Paris, parce qu'entre-temps, Son Altesse Sérénissime, la princesse Caroline de Monaco, qui est maintenant princesse de Hanovre, m'a demandé, avec Pierre Lacote et Guylaine Tesmer, d'écrire un ballet pour la réouverture des ballets de Monte-Carlo.
Ils m'ont demandé... D'écrire un ballet?
Oui, oui, la musique d'un ballet, sur une nouvelle de Stefan Zweig, que la princesse avait choisie. On était en janvier, les répétitions devaient commencer 1er juillet. Donc j'ai pris 6 mois de vacances à l'opéra, j'ai mis 5 mois à écrire ça, j'ai commencé à répéter avec le ballet, après on a orchestré. Je suis jamais rentré à l'opéra, je suis jamais revenu. Donc il fallait quand même que, heureusement, tout au début, comme j'étais en vacances, ben j'ai commencé avec Attis de Lully, et puis tout s'est enchaîné comme ça.
Et alors cette composition, ce ballet, il en reste des traces
Ah ben oui, je pense bien, c'est 1h30 de musique pour l'orchestre philharmonique.
Oui, non, mais
de
des
Monte-Carlo.
Enregistrements, il faudrait qu'on écoute ça un de ces jours.
Ça serait bien, c'était pas mal. Hein,
vous avez beaucoup d'autres œuvres de compositeurs, Hervé Niquet?
J'ai fait beaucoup de musique contemporaine. C'est du...
Aussi.
Mais plutôt chantable, jouable, parce que c'était pour un trio, un quatuor que j'avais. Donc, j'ai tourné jusqu'au fin fond de l'Afrique. Donc, j'ai composé beaucoup, beaucoup de musique pour clavecin, guitare et une chanteuse. Voilà. Là, il y a un gros opus.
C'était le grand écart.
Il faut bien manger. Bon, voilà. On a besoin de musique, on l'écrit.
Voilà. Et puis, évidemment, on a commencé à vous remarquer avec votre orchestre, avec vos premiers enregistrements et avec tout de suite, justement, quelque chose qui relie à nos chères opérettes qu'on défend beaucoup dans cette émission, c'est-à-dire de la musique baroque, mais drôle, enlevée, fantaisiste, comme celle de Boismortier dans Don Quichotte chez la Duchesse. Thank you.
marou.
Le soleil chante sa joue, chouchou, chouchou. Le soleil sans joue, c'est un bijou, c'est un bijou.
Maudite soit la dulcinère dont mon maître est devenu fou.
Le joli chant du sapage, chouchou, chouchou. Le joli sapage, c'est un bijou, c'est un bijou.
Voyons, voyons, cette fille s'est faite, et même le singe, approchez-vous. Qu'il a la taille fine et légère, parmi le tour, il va accomplir de sauter. Il paraît assez doux, sauter, sauter pour Dieu.
Que mon destin est déplorable.
Quel hurlement épouvantable. Quel hurlement, quel hurlement épouvantable. Quel hurlement épouvantable.
Le gentil Sapajou, extrait de Don Quichotte chez la Duchesse de Boismortier. Alors, c'est pas du tout le premier enregistrement de votre orchestre, le concert spirituel, Hervé Niquet, mais c'est un des premiers qui nous ont fait remarquer, avec peut-être des œuvres comme Platée et une ou deux autres, qu'il y avait aussi toute une verve joyeuse, loufoque dans ce répertoire qui préfigure au fond le temps d'Offenbach. C'est ça.
Oui, mais même un répertoire sévère qu'on n'aborde pas du tout. Depuis qu'on a 50 ans qu'on fait de la musique baroque, je pense qu'on n'a pas abordé 5% du répertoire comique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Paris, il y avait la Foire Saint-Germain et la Foire Saint-Laurent.
C'est ça, les ancêtres de l'opéra comique.
Exactement, avec des maisons d'opéra construites pour ça, on recevait entre 50 et 200 personnes avec des vraies scènes, des vrais, et puis tous les compositeurs, Rameau a composé, Boismortier a composé, et puis tout le monde s'y pressait, et puis donc voilà, il y a tout un répertoire que je sais pas si on doit être sérieux autant que ça l'opéra, mais on oublie en musique baroque qu'il y a autant d'opérettes que d'opéras.
Voilà, en même temps, en choisissant comme nom pour votre orchestre le concert spirituel et en faisant vos premiers enregistrements comme celui de Jean-Gilles, vous n'alliez pas vraiment vers ce répertoire-là. Ça s'est imposé à vous comme ça au fil des recherches, des rencontres.
C'est le seul nom historique qui restait.
Le concert spirituel.
Le concert spirituel.
Oui, bien sûr. Et très beau nom d'ailleurs. C'est un grand moment de l'histoire de la musique française. Exactement. On peut rappeler en 30 secondes pour les auditeurs.
Dany Canfilidor avait obtenu le privilège du roi de faire de la musique pendant Pâques et pendant la période de l'Avent, à Noël, lorsque l'Académie royale de musique était en congé. Il avait le droit de faire des concerts, les premiers concerts payants à Paris. Et comme tout le monde était en congé, tout le monde était là pour jouer. Et tous les grands compositeurs, jusque 1791, ont composé pour le concert spirituel.
Voilà. Mais cela dit, donc, ce répertoire de fantaisie, oui, il s'est imposé à vous, comment? Boismortier en particulier, auquel vous avez consacré plusieurs disques?
C'est un génie, hein. Ouais. C'est le Poulenc du 18e siècle. Je sais pas si vous aimez Poulenc.
C'est un compliment pour moi.
Avec Poulenc, c'est les deux plus grands opus de la musique française. Il a plus de 550 opus. C'est considérable. Et puis, ce monsieur était drôle. Il n'a jamais eu besoin aucun sponsor, mécène ou support. On lui disait « Ouais, mais t'écris de la musiquette ». Et il répondait « Ouais, mais je gagne de l'argent ». Voilà. Donc il a dit « Merde à tout le monde », il a fait que ce qu'il a voulu. Et ça me plaît bien.
Alors, je reviens, Hervé Niquet, à cette idée de cette continuité de la musique française qui, pour vous, est quelque chose de très important. Hein. C'est quoi? C'est une relation avec la langue française, d'abord?
Complètement.
Oui.
Puis l'esprit, la langue et l'esprit. Et puis, sa technicité, l'application pour la déclamation. Et là, j'ai retrouvé, il y a encore, c'est l'année dernière, c'est rigolo parce qu'il y a, j'ai un ami dont la mère est décédée. Je ne savais pas qu'elle était prof de chant dans les années 70, 80. Elle avait fait une jolie petite carrière. Et il m'a donné, il avait retrouvé dans ses bibliothèques un traité de chant de 1950, quasiment les mêmes mots que Bérard ou Bassilly au XVIIe, au XVIIIe siècle, la façon de prononcer le français. Ben ça, si c'est pas un fil conducteur, et puis vous regardez les films de Sacha Guitry, de tout ça, la diction, c'est insensé.
Mais est-ce qu'il y a aussi un fil conducteur du côté, disons, de la couleur, de l'orchestre, de la façon d'écrire pour un ensemble de musiciens?
Mais bien sûr, c'est un état d'esprit, vous savez, c'est le bordel, la France, quand même. Vous savez, les étrangers, quand ils arrivent à Roissy ou à Orly, la première chose qu'ils demandent, c'est savoir s'il y a des grèves. Ouais. C'est-à-dire que dans quel bordel on va être. C'est ça, quand même, la France. Regardez les informations, là. Eh ben, la musique, c'est pareil. Il y a encore plein de chefs allemands qui comprennent pas Ravel et Debussy. C'est pas structuré pour eux. Or, comme disait, je crois que c'est Liffard, rigueur sur le fond, mais fantaisie sur la forme.
Alors quelqu'un que Debussy et Ravel adoraient, que vous avez enregistré, qui est peut-être quelqu'un qui résume merveilleusement une partie de l'esprit français, c'est Chabrier.
Ah bah oui, mais c'est Ravel qui disait que la marche joyeuse ou joyeuse marche de Chabrier, c'est ça qui lui a fait tout comprendre. Pour lui, c'est la fondation de l'orchestration contemporaine, moderne.
Et cet enregistrement, alors, que vous avez consacré à Chabrier, c'était voilà un désir de longue date.
Il est vieux, cet enregistrement. Ouais, c'est Naxos qui me jetait chez Naxos tout au début du concert spirituel. Il m'a dit, écoutez, j'ai l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, là, pendant 3 jours, vous voulez pas enregistrer quelque chose? J'ai dit, moi, en rigolant, Chabrier, hop! Il m'a rappelé en me donnant des dates. Bon, ben voilà. Et puis, j'ai enregistré un disque de Chabrier, il y a Espagna, qui est une version de référence avec cet orchestre formidable.
Et en même temps, peut-être, ça vous sortez un petit peu de l'étiquette baroque, parce que la France a beaucoup de qualités, mais c'est aussi le pays des étiquettes.
Ah ben oui, oui. Moi je suis vraiment, j'ai une étiquette sur le front et sur tout le corps, tapé baroqueux en France.
Voilà, pour la vie.
Or, à l'étranger, je fais tout sauf de la musique baroque. Quoi. Puis moi je suis né à l'Opéra de Paris avec Ozawa, Montserrat, Caballé, José Carreras dans Turandot.
Vous étiez triste de la mort de Montserrat?
Ah ben oui. Moi c'était, je l'ai bien connu quand j'étais à l'Opéra, pendant toutes les années où elle est venue l'Opéra. C'est un grand moment de ma vie. Quoi. Ouais. Donc voilà. Et oui, Chabrier, donc ça a été mon premier passage devant un grand orchestre.
La joyeuse marche d'Emmanuel Chabrier avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction d'Hervé Niquet. C'était en 1999. C'était donc, on peut dire, Hervé Niquet, vos débuts au disque avec le répertoire symphonique français moderne. Oui. Depuis, vous avez enregistré Gounod, Victorien Joncaire, Charpentier, Max Dolon, Debussy, Grétry, Saint-Saëns, Fauré, Marie Javel, Halévy, Hérold, Théodore Dubois, Paul Dukas et j'en passe. C'est absolument incroyable. C'est dernières années. Là,
Fernand de la Tombelle, la semaine dernière, cher ami. Ben oui, un grand auteur, merveilleux. Mais merveilleux, vraiment, c'est formidable.
Mais ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous êtes, je ne veux pas dire toujours enthousiaste, ça voudrait dire que vous mettez tout au même niveau, mais quand même, vous y allez toujours avec une espèce de générosité, de curiosité, d'envie de nous faire aimer, c'est m'être oublié.
Pour deux raisons. Quand vous regardez les informations le soir, moi je trouve que je suis bien heureux de faire de la musique à l'abri. Hein. Et puis, il faut donner la chance à tous les compositeurs, parce que vraiment, il y a des génies. Je veux dire, moi, je suis pas capable de faire le moindre mesure que ces types ont fait. Ce Fernand de la Tombelle dont on rigole, puis il y en a d'autres. Hein. Monsieur Defès, Véronce de l'Anux. Je rêve de faire des programmes avec tous ces auteurs qui ont tous eu des prix de Rome, qui ont fait autre chose, du musical, du cabaret ou des œuvres sérieuses. Mais les pétards, les types le méritent.
Est-ce qu'il y a quand même des orchestres qui s'y prêtent mieux que d'autres? Il y a vraiment des traditions, des styles, des couleurs d'orchestre. Je reviens pas même sur la question du fagot et de...
Oui, il y a des orchestres qui aiment ça, puis il y a aussi des orchestres... Oui, il y a une tradition, comme on en parlait tout à l'heure, là, à Monte-Carlo, il y a une longue tradition de musique française, par exemple. Et puis, il y a 20 ans que j'ai enregistré ça, mais le clarinettiste qui était là, il avait dépassé la retraite, on l'avait conservé d'abord parce que c'était un très bon clarinettiste, et puis ça l'avait tenu en vie, il avait été malade, mais le type avait joué sous la direction de Poulenc. Donc, je veux dire, il y a des orchestres qui ont un passé, un savoir-faire. Et puis là, avec mon orchestre belge, le Bruxelles Philharmonique, c'est un orchestre quasiment français, quoi.
Mais vous aimez bien aussi, éventuellement, transmettre ce répertoire à d'autres formations, en Pologne, ou dans d'autres pays.
Là, je vais retrouver, au mois d'avril, je vais retrouver l'Orchestre Symphonique de Montréal.
Voilà.
Donc voilà, ça, c'est des orchestres qui ont une idée de la musique française joyeuse comme moi, quoi.
Voilà, on le sent bien, et c'est pour ça que c'est si agréable de parler avec vous. Et la France, elle est aussi très liée à New York. Paris-New York, c'est un voyage musical sans fin. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière dans les années 80, quand vous êtes allé, avec le Ballet de l'Opéra de Paris à New York. Racontez-nous ce voyage.
Alors, moi j'étais un pianiste à l'Opéra de Paris, on était 7 au ballet. Hein. Ouais. C'était sous la juridiction de Nourieff, on ne peut pas dire direction artistique.
Ah bon
un jour. Ah bah parce que...
Juridiction.
Ah bah oui, je veux dire, pétard, quand il rentrait dans la pièce, tout le monde était au garde à vous. C'était quelque chose, mais alors ça rigolait pas, mais ça travaillait. Hein. Par contre, j'étais le seul pianiste qui le faisait rire. Je pouvais pendant les classes chanter, siffler, jouer faux, mais du moment que ça allait avec la danse, il adorait ça. Et donc quand on partait en tournée, il disait c'est Niquet qui part tourner. Donc moi j'étais souvent de tournée. Et la tournée, évidemment, je suis parti, alors ça faisait des années que le Ballet de l'Opéra n'était pas allé aux USA, et on a fait 8 jours à New York, 8 jours à Washington. Alors vous imaginez bien que moi, j'essayais de service que le matin pour les classes et les répétitions, donc tous les soirs j'étais sur Broadway en train de regarder des comédies musicales. Ouais. Mais il y a eu quand même une soirée bénéfice, fundraising evening, pour justement payer le voyage du ballet. Donc, le directeur de l'Opéra de Paris avait appelé quelques stars, entre autres Jane Kelly.
Quand même.
Voilà. Ouais. Et donc, j'ai répété pour cette soirée avec Jane Kelly. Donc, je l'ai croisée. Puis après, il y a une soirée chez Nourieff avec plein de gens. Dans le Dakota Apartment, il était voisin de John Lennon et Yoko Ono. Enfin,
voilà. Ah, il habitait le Dakota aussi.
Bien sûr.
Cet immeuble extraordinaire au-dessus de Central Park.
Voilà. Donc, moi, c'est des souvenirs. Jane Kelly, New York, c'était fantastique. Voilà.
Et la comédie musicale, c'est resté toujours une addiction, une passion, une curiosité simplement pour vous ?
Écoutez, le jour où l'école... Moi, j'étais chez les Bonnes Sœurs. Et un jour, le prof d'anglais à Abbeville, chez les Ursulines, à toute l'école Notre-Dame. Eh ben, je sais pas ce qu'a pensé la prof d'anglais. Elle nous a fait faire un voyage à Londres et elle avait pris des billets pour Jésus-Christ Superstar.
Waouh !
Oui, exactement, waouh ! Alors, il y avait une religieuse qui était avec nous, à mon avis... Elle est rentrée défroquée parce que c'était pas possible autrement. Et c'est là que j'ai découvert la comédie musicale. Après, je suis retourné à Londres voir Barnum, voir tout ça. Puis alors, j'ai une passion pour la comédie musicale. Alors, dès qu'on a du temps, on va où à Londres voir des comédies musicales
ou
à New York.
Ah oui, c'est vrai.
Ça c'est formidable, ça. C'est...
Ben, on va retrouver justement, en tout cas, Jane Kelly dans un extrait d'un Américain à Paris avec des petits enfants qui parlent français.
Parlez anglais à nous.
Parlez anglais.
Écoute, je suis le professeur. Répétez après moi. Do.
Do.
Street.
Street.
Lady.
Lady.
Window.
Window.
Alors maintenant, une chanson américaine. Oh. An American song. Dis-moi. I got.
I got.
Bon. Tous ensemble.
I got.
Bon.
I got.
Rhythm.
I got.
Music.
I got.
My gal, who could ask for anything more?
I got.
Daisy.
I got.
In green pastures.
I got.
My gal, who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him round my door.
Vous comprenez ça?
Non! I got.
Rhythm.
I got.
Music.
I got.
My gal, who could ask for anything more? Who could ask for anything more?
La même chose en français.
J'ai du rythme, j'ai de la musique, j'ai ma chérie, who could ask for anything more? J'ai des daisies dans green pastures, j'ai ma chérie, who could ask for anything more?
Old man Trouble, I don't mind him, you won't find him hanging round my door.
Comprenez ça maintenant?
Non!
I got!
Yeah!
I got!
Yeah!
I got!
I got!
Who can ask for anything more?
Who can ask for anything more?
Soldier!
Soldier! Regarde, il fait un soldat!
Napoléon!
Oui, c'est pas mal fait là encore, n'est-ce pas, Hervé Niquet, hein?
Non, mais c'est un bijou d'orchestration. On a déjà des images, ces gens
en scène, une France des cartes postales, mais très bien faite.
Oh, c'est kitschou ici, c'est tout sauf français, mais on y croit dur comme fer. Non, c'est formidable.
Voilà, c'était Gene Kelly. C'est la comédie musicale et l'opérette. Au fait, il n'y avait pas de théâtre à Abbeville, j'imagine.
Ah, oh, si, il y a un théâtre à Abbeville.
Non, mais un théâtre où on donnait des opérettes.
Ah non, moi j'ai jamais vu ça là. Mais ben, moi, c'est quand je suis arrivé à Paris que j'avais 18 ans, là que j'ai traîné.
Oui, donc
Châtelet,
au Châtelet, bien sûr. Oui, oui.
Je suis tombé à la renverse, quoi. C'était.
Et donc vous avez retrouvé finalement ce répertoire-là avec le concert spirituel d'abord avec Don Quichotte chez la Duchesse, et puis ensuite aussi dans votre travail avec Shirley et Dino, que de
ah oui.
d'autres excellents camarades avec qui vous avez monté
ah oui.
le roi Arthur.
Ah oui.
De Purcell. Donc voilà, on peut dire on est aussi pas loin de l'opérette là.
D'autant que on a les mêmes héros qui sont les Branquignoles.
C'est la référence commune. Les
ah
Branquignoles.
Oui. Ah oui, voilà. C'est vraiment la référence commune. Je suis monté chez eux, là, au premier étage, et dans l'escalier, il y a que des photos de Colette Brosset et Robert Derrick qui connaissaient bien.
Oui, c'est ça. Oui.
Ça, et les frères Jacques et tout ça. Puis moi, j'ai vu le dernier spectacle des frères Jacques. Donc voilà, quand on s'est rencontrés, qu'on a vu qu'on avait la même piste aux étoiles, voilà. Et puis, avec eux, j'ai découvert ce qu'est le music hall, quoi. Je veux dire, c'est réglé au cordeau pendant des heures pour que ça marche. Parce que la tragédie, c'est facile de pleurer, puis on tarde un peu, puis on attend la grosse dame qui pleure un petit peu, qui rallonge, et puis tout est pas en mesure, mais ça beau, puis ça pleure, bon ça marche. Mais l'humour, ouais. À pétard, si c'est pas au cordeau, au millisecondes près, ça ne marche pas. Donc c'est un travail de forcené, quoi, l'humour.
Alors en même temps, il y a quelque chose qui témoigne un petit peu de triste singularité française, c'est que des gens comme vous, et d'ailleurs d'autres chefs d'orchestre, et puis des amis comme Shirley Edino, Gilles et Corinne Benezio, vous êtes tous des passionnés de ce répertoire d'opérette, etc. Vous seriez prêts à en monter si on vous proposait à Paris d'en faire deux ou trois par an, vous iriez avec enthousiasme. Mais sauf que ça n'existe pas.
Oui, alors ça, je comprends pas. Oui. Ça, je comprends pas. Ben, là, il y a deux mois, on avait un peu le cafard, on avait le temps, on a été trois jours à Londres voir trois comédies musicales.
Ouais, ouais.
Vraiment, trois opérettes, quoi. Ouais, trois opérettes américaines. Ouais. Mais à Paris,
vous essayez, de temps en temps, vous allez voir des directeurs, vous leur parlez de projets.
Rien. Or, je suis persuadé, vu le climat ambiant, vu la lourdeur de certains metteurs en scène, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein.
Ouais.
Mais souvent, vous allez à l'opéra, mais vous regrettez. Vous fermez les yeux pour pas voir ce qui se passe sur scène.
C'est vrai.
Il y a des cabinets pour ça, ça s'appelle le psychiatre pour régler les problèmes des metteurs en scène. Mais pas avec de l'argent public, en mettant des trucs sur scène, sur le plateau. Et donc, moi, je suis persuadé que le genre du futur, ce qui va sauver la musique classique, c'est vraiment la joie qu'il y a dans l'opérette. Il faudrait que les producteurs s'y penchent un peu plus. Parce que...
Offenbach s'en sort mieux que les autres, mais le reste, pas du tout.
Oui, mais il y a combien de choses pour un Offenbach? Vous connaissez ça mieux que moi. C'est sidérant, l'espace pour l'opérette et l'opéra comique.
Alors, on pourrait dire que pour l'opéra comique, ça va un petit peu mieux, parce qu'il y a l'opéra comique, il y a la Fondation Brouzane qui soutient beaucoup de projets également.
Oui, ben heureusement qu'ils sont là, ceux-là. Ouais, vraiment, ça a vraiment déclenché des choses.
Mais vous êtes très lié d'ailleurs, vous êtes associé dans beaucoup de projets, hein. Ils sont souvent...
Oui, ben, je suis tout simplement à l'origine de ce projet. Mais,
oui, ah bon, voilà, carrément, voilà, disons-le. Hein.
Disons-le. Mais c'est vrai que l'opérette, c'est pas un sous-genre. C'est le genre populaire par excellence, vraiment. Et je comprends pas. Alors que les plus grands ont écrit pour ça, les plus grands ont chanté pour ça, les salles. Mais moi, je me souviens vraiment au Châtelet, mais c'était tous les soirs, deux fois de dimanche. C'était plein.
Oui.
Vous imaginez? Alors bon.
Mais le mépris qui existe pour ce genre, malheureusement.
C'est très couillon.
Dans une certaine.
Oui.
Même plus chez les intellectuels qui commencent à trouver que c'est peut-être branché, mais chez les politiques, ils ont toujours un temps de retard, vous savez.
Un temps seulement?
Oui, voilà. En tout cas, pour ce qui est de l'opéra comique, on le disait, Hervé Niquet, vous avez été en partie à l'origine de toute cette extraordinaire fondation Brouzane qui soutient des projets, notamment lyriques, un peu partout pour redécouvrir justement le répertoire. Et donc, vous avez ensemble, ces dernières années, monté plein d'œuvres oubliées. Je voudrais qu'on en évoque quelques-unes aujourd'hui, puisque vous êtes là pour parler vraiment de votre amour de la musique française, et notamment de la musique française du 19e siècle oubliée. Alors, on a commencé avec Gounod et le Tribut de Zamora. On pourrait peut-être dire un mot maintenant de Félicien David.
Ouais. Ah oui, Félicien David.
Herculanum. Ben
là... Et alors, c'est extraordinaire, Herculanum. Alors, j'ai de la chance, c'est que j'ai enregistré avec ça, avec le Bruxelles Philharmonique.
Oui. Alors, Félicien David, qu'on ne connaît a priori que pour Le Désert, hein, qui était une grande œuvre pittoresque du temps de Berlioz.
Alors que c'est un
Berlioz.
Type, mais démesuré. Ouais. Démesuré. En France, pas beaucoup d'espoir de faire des ouvrages comme ça, parce que je pense que les Français ont un mépris pour leur musique inconnue, française. Ça, moi, je trouve ça honteux, mais bon, c'est comme ça. Et donc, je fais ça avec le Bruxelles Philharmonique à Bruxelles. Les Belges ont un genre d'honnêteté. On leur met un carton sur le pupitre. Ils vont jouer ça avec tout leur cœur, tout leur âme, tout leur savoir, tout leur métier.
Voilà.
On ne pense pas. On fait le truc à fond. J'ai pu faire des projets ahurissants avec eux. Ouais. Et ils sont convaincus. Au bout de 3-4 niaiseries que je leur apportais, enfin, c'est pas des niaiseries, Victorin Jancière,
on va l'écouter après.
Je veux dire, eh ben, ces gens ont défendu corps et âme avec moi. Et c'est pour ça qu'on peut entendre un Félicien David, Herculanum, qui est énorme. C'est aussi gros que Robert le Diable ou tous ces gros Meyerbeer. C'est ahurissant. Un français formidable, une poésie, un dramaturge extraordinaire, un orchestrateur hors pair. Une imagination débordante. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà.
Et un maître de la musique vocale, c'est pourquoi aussi, pense que Véronique Jean s'est laissé séduire.
Ah oui, c'est ahurissant.
Thank you.
Un extrait d'Herculanum de Félicien David. Alors, vous avez fait à la fois l'œuvre complète Hervé Niquet et puis Véronique Gens aussi dans le récital que vous avez fait avec elle, à reprendre donc cet air magnifique. Un musicien qui savait tellement bien quand vous le lisiez écrire pour la voix.
Oui. Mais ce que vous disiez aussi, c'est qu'on ne sait plus que la France était le pays de l'opéra. Et puis, qui sait écrire pour la voix, c'est faire des mélodies qu'on peut retenir. Enfin, c'est un pays de chansons, la France.
Oui, c'est le pays de la chanson. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a tendance à croire que la chanson, c'est une chose qui vient d'Amérique et l'opéra, c'est une chose qui vient seulement...
Les Américains nous ont tout piqué, monsieur Duterte.
Non, vous
savez bien.
N'exagérons pas. Ils font, d'ailleurs, on l'a entendu avec Jane Kelly, ils savent bien faire des belles choses aussi. Mais on continue, cette exploration que vous menez là maintenant de façon ardente depuis quelques années avec les différents orchestres que vous dirigez, avec la Fondation Brouzane, et à côté du concert spirituel, comment ça s'organise aujourd'hui tout ça dans votre vie de musicien et en même temps de responsable d'une formation?
Il faut un bon agenda, parce que des fois ça frotte. En réalité, il faut...
Votre orchestre, c'est quand même toujours le concert spirituel.
C'est le concert spirituel, c'est l'œuvre de ma vie. On a fêté les 30 ans l'année dernière, donc c'est quand même une grosse somme de boulot. On a fait entre, je crois, 90 disques ensemble, à peu près de 100, quoi.
Mais vous n'allez pas, par la nature même de cet orchestre, au-delà du 18e siècle, ou pas beaucoup.
On frôle le début du 19e maintenant, et ça va bien. Et puis, parce que tout a progressé, notamment la technicité des instrumentistes, l'organologie aussi, les instruments. Donc voilà, on teste toujours tout et on a des choses à dire avec notre grille de lecture 18e dans le 19e, évidemment. Vous parlez de continuité tout à l'heure, elle est là aussi.
Alors, un autre compositeur que vous avez enregistré là, donc dans ce répertoire plutôt romantique, Victorin Joncière, c'est un nom que j'ai vu 2-3 fois dans l'histoire de la musique, j'avoue que je ne m'étais jamais vraiment intéressé avant de recevoir votre disque de son opéra Dimitri, qui est très beau. Complètement oublié, déjà de son vivant, d'ailleurs, il était assez malheureux, je crois.
D'abord,
il était ami de Chabrier, quand même.
Il s'appelle pas Victorin Joncière, il était critique musical et son vrai nom, c'était Félix Ludger Rossignol. Impossible de faire carrière avec ce nom-là, donc il a pris le nom de Victorin Joncière, ça fait plus sérieux. Parce que quand on m'invite à l'autre bout du monde pour diriger des orchestres japonais, chinois, n'importe où, j'emporte des trucs que jamais on me ferait faire en France, en disant que c'est très important. Et j'ai donc, il y a des symphonies de Victorin Joncière qui sont extraordinaires, vachement difficiles. Et ce type, il a écrit quelques ouvrages et donc c'est notre Boris Godounov français, en fin de compte, Dimitri.
Dimitri, oui.
C'est formidable. Mais c'est formidable. Il y a une partie de ténor, un rôle de ténor, mais...
Un opéra de 1876.
On le croit pas quand on entend ça. Et puis c'est le grand opéra français avec des grandes scènes de foule, des grandes scènes d'orchestre, avec des cloches, avec des machins.
Et bien justement, on va écouter la toute fin de l'opéra avec le grand chœur final, de Dimitri de Victorin Joncière.
Notre maître, notre vainqueur.
La fin de Dimitri, opéra de Victorin Joncière, dirigé par Hervé Niquet, avec, on peut dire, vos deux formations belges.
Hein, oui.
Le chœur, donc.
Le chœur de la radio flamande, Vlaams Radio Corps.
Mais la Flandre ayant, il faut le rappeler, quels que soient les problèmes de ce cher pays qu'est la Belgique, une vraie tradition de musique française.
Hein. Ah là là, oui. Et puis, j'ai découvert, ça fait 15 ans que je suis en Belgique,
ouais.
Un répertoire, alors ça, vous aimeriez ça, monsieur Duterte, un répertoire de musique légère, parce qu'il y avait
musique
les casinos.
Musique symphonique légère.
Oui, ouais. Parce qu'il y avait les casinos, il y avait les villes d'eau, il y avait, c'est extraordinaire. Et même pendant la guerre, il y avait des orchestres et des ensembles qui jouaient tout le temps. Un répertoire considérable.
Voilà. Donc, le chœur flamand et puis l'orchestre Bruxelles Philharmonique, voilà. Dont vous êtes très précisément le chef invité.
Voilà. Je suis directeur musical du Vlaams Radio Corps et premier chef invité du Bruxelles Philharmonique.
Voilà. Vous continuez donc à travailler avec eux avec beaucoup d'enthousiasme et puis vous voyagez tout le temps. Parce que le concert spirituel est à Paris, mais vous avez aussi une petite base à Marrakech, où vous avez même ouvert une maison d'hôte. Les auditeurs vont se précipiter, attention.
Oui, parce que vous savez, nous on passe notre vie dans les valises, les hôtels, les trains, les aéroports. Et voilà, moi, à un moment, j'ai dit, bon, je veux le soleil de temps en temps.
Ah,
je
me suis installé
à Marrakech, c'est mon adresse.
Mais oui, les Picards, c'est un peu comme les Normands, ils vont vers le sud à la recherche de la chaleur.
Exactement.
Hein. Voilà. Alors, néanmoins, Paris est donc le cœur de toute cette musique qu'on aime. Et à Paris, il y a encore un des compositeurs que vous avez contribué à redécouvrir ces dernières années, c'est Gustave Charpentier, évidemment le poète musicien de la Butte Montmartre,
oui.
Qu'on ne connaît plus guère que par Louise, et encore, pour ceux qui connaissent Louise. Mais vous avez enregistré aussi des œuvres alors beaucoup plus rares. Hein.
Oui.
Toujours dans cette collaboration avec
le Palazzo Rosane.
Comment ça se passe d'ailleurs en général? C'est eux qui arrivent avec des idées? C'est vous qui allez voir avec des projets?
La première idée des Prix de Rome, c'est moi, Alexandre Radvicki, me dire, on regarde ça quand même parce qu'il y a une collection il y a 300 cantates de premier prix et 600 cantates de second prix.
Au temps où tous les compositeurs passaient leur Prix de Rome en écrivant une cantate et les plus grands en ont donc écrite pour la circonstance.
Et il me dit, va voir ça. Et je suis tombé amoureux de ce répertoire, mais tous les génies sont là.
Ah oui, c'est pour ça que vous en avez fait beaucoup, en fait, Andy.
Ah oui, je lui ai dit, quand on a ouvert le Palazzetto Brusané, je lui ai dit, écoute, moi, je veux vraiment me consacrer à ça. Donc, ça fait le septième qu'on fait. Là, on aborde la famille Boulanger. Et alors, Gustave Charpentier, on a retrouvé quand même pas mal de choses. Donc, il y a ses cantates. Et puis, il y a ce qu'on appelle les chœurs pour être admissible. On écrit un chœur orchestré pour être admissible au concours. Et puis, quand on est 2 ans, 3 ans à la Villa Médicis...
Les envois de Rome.
Voilà, il faut quand même dire à l'Académie, on est vivant, on travaille. Donc, il y a des envois obligés. Voilà,
c'est ça.
Et la vie du poète est, j'allais dire, le premier trait de Louise. On va quasiment retrouver 80%
les thèmes de Louise, en fait,
oui,
avec un poète de la bohème et une jeune femme. Et...
Donc c'est formidable, vraiment formidable.
C'est un peu étrange, hein, comme en même temps se livrer.
Je pense que Charpentier à Rome n'a pas mangé que des pizzas. Il a dû fumer un peu des choses qui traînaient dans le parc de la Villa Médicis, parce que là, à un moment, c'est...
On va écouter le final donc de la première partie de La vie du poète de Gustave Charpentier, toujours sous votre direction, Hervé Niquet.
Thank you.
enthousiasme, c'est le nom de ce mouvement extrait de La vie du poète, symphonie drame en trois actes et quatre tableaux de Gustave Charpentier avec beaucoup de voix. Il y a même celle de Sabine de Vielle quelque
part.
Oui,
c'est là. Son premier enregistrement.
Son premier enregistrement, oui. C'est important de le dire. Et c'est encore un de ces très beaux disques que vous avez fait, Gustave Charpentier, vraiment dans votre mission, votre engagement de défenseur, de découvreur de la musique française. Ça nous fait vraiment très très plaisir,
bah,
en tout cas à moi.
On est là pour ça.
On n'a pas pu évoquer Max Dolan.
Ça c'est extraordinaire, Max Dolan.
Il suffit que je lance un nom, ça va marcher. Oui, non, extraordinaire, mais bon. Ouais. On n'a pas pu évoquer les cantates de Saint-Saëns, que vous avez faites aussi, les envois.
Oui, très beau.
Pour le prix de Rome également. On n'a pas pu évoquer la grande compositrice Marie Jaël.
Ah oui, dernière élève de Liszt, et on a enregistré pas mal de choses, et puis un concerto pour violoncelle.
C'est très beau, hein.
Ouf, oui. Mon Dieu que c'est beau.
On n'a pas évoqué Théodore Dubois, Hérold et Halévy, bien sûr, tous ces compositeurs que vous avez enregistrés, et j'ai l'impression que c'est pas fini.
Ah bah non, on en a plein d'autres.
Vous avez des cartons en plus des projets.
Ah mais oui, alors moi j'ai mes propres cartons, mais au Palazzotto Brusané avec Alexandre Radvicki, c'est vraiment un des spécialistes de ça, c'est une mine ce type, vraiment. Ouais.
Il manquerait plus que des grands orchestres français vous invitent à jouer le répertoire français, ça pourrait être bien.
Oh, si on pouvait parler d'autre chose, ça serait bien, monsieur Duteurtre.
Bon, allez, alors finissons ce très agréable moment en Belgique avec Éric Matthau. Tiens, justement, on va retourner vers la musique légère, symphonique,
ah oui.
Ou
mais
pas,
écoutez,
d'ailleurs, de chambre, voilà.
J'ai pensé à lui pour une chose toute simple. J'étais en train d'enregistrer, il y a très peu de temps, là, un oratorio Rédemption de César Franck, parce
bien
qu'en
sûr, ouais.
En 2022, ça sera l'anniversaire Franck, à Liège. Le bâtiment de la salle du Philharmonique de Liège est dans le conservatoire, et Eric a vu que j'étais au tableau de service, je le connais, il est contrebassiste, il est passionné de la musique légère belge, et
voilà,
il
justement.
Me dit, oh, c'est toi qui es là, c'est formidable, tiens, voilà mon nouveau disque. Et il m'a passé ça. On avait fait des programmes il y a une quinzaine d'années ensemble, et c'est de la musique, mais que j'adore, c'est de la musique belge. Moi, je trouve que les Belges...
Il y a une musique belge, alors, donc.
Ah, il y a une musique belge. Ah oui. Ah oui, il y a une musique belge. Puis il y a des Belges.
Pour moi, des Belges... Ça, c'est bien, mais on pourrait dire la musique belge, elle est soit française, soit...
Mais ils ont tous fait leurs études à Paris, donc c'est des très bons mélodistes. Et puis, il y a un côté belge. C'est des Français qui sont de bonne humeur, les Belges, vous voyez.
C'est agréable.
Et la musique est comme ça. Voilà.
Avec Monsieur Lowerins.
Alors, vous réussissez à prononcer, vous. Moi, j'ai renoncé. Je préfère être à ma place qu'à la vôtre, là. Allez-y, je vous écoute.
En tout cas, ça s'appelle Holidays. C'est dans le dernier disque d'Éric Matthau. C'est un choix d'Hervé Niquet,
oui.
Qui était mon invité ce matin. Merci, Hervé.
Merci, monsieur Benoît Duteurtre.
Et continuez sur ce beau chemin.
J'y vais.
À bientôt. Voilà, ça c'est le côté belge des goûts de notre ami Hervé Niquet, une composition de Monsieur Lawerins, Holidays, marche américaine, interprétée par Eric Matteau. Ainsi s'achève notre entretien qui vous aura donné envie, je l'espère, de réécouter certains disques d'Hervé Niquet, en particulier ceux d'opéra français qui sont parus pour la plupart dans la belle collection du Palazzetto Bruzane. Vous savez, des livres disques avec l'œuvre intégrale, mais aussi beaucoup de textes, un livret complet, et notamment, en particulier, parce que c'est un chef-d'œuvre resté longtemps méconnu, le Tribut de Zamora de Charles Gounod, paru donc avec l'orchestre de la radio de Munich sous la direction donc d'Hervé Niquet. Avez-vous reconnu ces voix pures des Jeans, ce groupe de jeunes filles créé à la fin des années 50 sous la houlette du chef d'orchestre Paul Bonneau, à l'intérieur même d'ailleurs de la radio, puisque c'était des jeunes filles un peu âgées pour être encore à la maîtrise, mais encore trop jeunes pour entrer dans les chœurs. C'était un groupe d'adolescentes qui a connu un très très grand succès. Je leur avais d'ailleurs consacré une émission à ces Jeans qui nous ont raconté ce qu'elles étaient devenues. Là, c'était au temps de leur grand succès qui a obtenu d'ailleurs en 1959 le Grand Prix de la radio-télévision française.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps jusqu'à la fin de cette émission, eh bien j'ai ressorti pour vous quelques petits trésors musicaux que vous connaissez peut-être ou que vous serez heureux de découvrir. Et on va commencer par Jacob do Bandolim, le grand musicien brésilien dans Receita de Samba. Thank you. Receita de Samba, une composition de 1965 de Jacob do Bandolim, grand maître du bandolim, la mandoline brésilienne qu'on entendait ici, musicien mort trop jeune à seulement 50 ans en 1969 et qui a laissé des enregistrements magnifiques, généralement comme on vient de l'entendre en duo avec d'un côté la mandoline et de l'autre côté la guitare qui n'est pas moins virtuose. Mais avec ce changement de genre qui est caractéristique de notre émission, je vous propose maintenant tout à fait autre chose, un petit duo fantaisiste extrait du troisième acte de l'opérette Monsieur Beaucaire d'André Messager.
Je connais une belle, trop belle, hélas, à mon amour rebelle qui m'a pris dans celle-là. Et la cruelle a fait serment d'être muette à mon tourment.
Je connais un pauvre homme parfait amant et que j'ai tant en somme de traiter durement.
Et c'est pourquoi, ni vous ni moi,
pourquoi? Eh bien, nous ne nous disons rien.
Pourquoi? Eh bien, nous ne nous disons rien.
Mais j'y pense, on va rire, si j'ose poser qu'un beau soir sans rien dire, je lui prenne un baiser. Elle a prévu dans son serment les mots, mais non le sentiment.
Il est clair que si l'ose, j'ai fait serment de rester bouche close au mot uniquement. Rien ne m'oblige à refuser de rendre baiser pour baiser.
Il a mis l'autre dit, serment nous retient.
Et si pourtant
L'amour nous tient. Eh bien, on se comprend très bien. Eh bien on se comprend très bien.
Liliane Berton et René Lenoti, irrésistibles dans ce duo d'André Messager sous la baguette de Jules Gressier et de Paris à Vienne. Eh bien, nous allons terminer cette émission avec le célèbre galop des paysans de Monsieur Max Schoenherr. Manfred Honeck à la tête de l'Orchestre Symphonique de Vienne dans ce galop paysan, extrait des Danses d'Autriche, une composition de 1935 de Monsieur Max Schönherr, qui fut l'un des derniers grands maîtres de la tradition viennoise. Ainsi s'achève, étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Valérie Lavalard, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Arlette Patrick qui nous dira tout des scènes d'opérette des années 50. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.